France Inter, le 18-20.
Il y a un an, jour pour jour, éclatait l'affaire Weinstein aux États-Unis, une onde de choc qui s'est propagée un petit peu partout dans le monde, à tel point, et ce n'est qu'un exemple, que lundi, il n'y aura pas de prix Nobel de littérature. Il est reporté à l'an prochain, MeToo est passé par là. Ici en France, MeToo a été rebaptisé Balance ton porc. Il a d'ailleurs donné lieu à bien des polémiques, avec notamment la fameuse tribune des 100 femmes pour la liberté d'importuner. Toujours est-il que la parole des femmes s'est libérée, que les plaintes ont explosé, et qu'une nouvelle loi a été adopté pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ceci étant posé, qu'en est-il dans les faits? Les pratiques ont-elles vraiment changé? Les hommes ont-ils modifié leur comportement? Les institutions se sont-elles donné les moyens de répondre à ce bouleversement? Bref, y a-t-il vraiment un avant et un après MeToo ici en France? Avec nous pour en parler, Anne-Cécile Maillefer, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de la Fondation des femmes qui vient de réaliser une enquête sur le sujet. Marilyn Baldeck, bonsoir. Déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, une association qui a été submergée de demandes depuis un an, mais pas forcément submergée de moyens, c'est ce qu'elle nous dira. Notre témoin du vendredi, Daniel Merian, est resté avec nous également. Rebonsoir Daniel Merian.
Bonsoir.
Ancienne avocate spécialiste du droit de la famille, vous nous apporterez votre regard sur ce qui est en train de se passer. Et puis, on attend vos appels à toutes et à tous, car le combat de l'égalité se gagnera ensemble. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Le téléphone sonne.
Et tout de suite, on va au standard de France Inter. Sophie est en ligne d'ici les Moulineaux. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci.
On vous écoute Sophie. Vous êtes médecin?
Oui, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que ça peut arriver dans tous les milieux professionnels, y compris quand il n'y a pas de relation de hiérarchie. L'année dernière, moi je suis médecin dans un hôpital de l'assistance publique et pendant une consultation, où j'étais donc seule avec un patient, le patient m'a agressée sexuellement. J'ai été complètement paralysée et quelques temps après, j'en ai parlé avec une infirmière qui m'a dit que ce patient, la semaine précédente, avait agressé verbalement cette fois-ci avec des propos salaces une jeune élève infirmière et que elle, étant plus, je dirais, âgée, était venue mettre le haut là. J'ai été très soutenue par mon chef de service qui m'a dit « faut que tu ailles à la police », ce que j'ai fait. J'ai été reçue par un policier homme extrêmement bienveillant, je voudrais insister là-dessus, on voit quand même que les choses évoluent. Et ce policier a consulté le fichier et m'a dit « madame, je peux pas vous dire ce que j'ai sur mon fichier, mais ce patient, il est connu. Je précise que c'est un avocat de 70 ans. Ce patient, il est connu pour nous, pour des agressions. Et donc, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Madame, si vous le recroisez à l'hôpital, appelez la sécurité tout de suite. » Donc voilà, le sens de mon témoignage, c'était ça. C'était de dire, ça peut arriver dans tous les milieux. Et les femmes qui soignent, infirmières, aides-soignantes, médecins, peuvent être extrêmement vulnérables. Vous parlez de la réaction des institutions. Au début, l'assistance publique a refusé de le prendre comme accident du travail en me disant « vous n'avez pas été violée ». Donc j'ai dû faire appel de la décision et on m'a dit « bon bah oui, finalement, maintenant, si une femme, et malheureusement ça peut être encore le cas, est agressée sexuellement sans viol, on l'acceptera tout de suite comme accident du travail ». Je me permets juste de dire après que je voudrais vraiment dire qu'il y a des hommes dont les comportements ont été très positifs. Mon patron, le médecin du travail, le policier qui m'a reçu, le psychiatre qui s'est occupé de moi. Mais par exemple, dans mon couple, eh bien mon conjoint, au bout de deux mois, m'a dit « tu sais, maintenant les femmes, vous en faites un peu trop. Il n'y a pas eu mort d'homme, il t'a pas violé, ça fait partie des risques du métier ». Si bien que moi, à ce moment-là, au bout de deux mois, j'ai dit « bon, écoute, je vais aller habiter ailleurs quelque temps parce que j'avais déjà du mal à me reconstruire à cause de l'agression du patient ». Et l'homme le plus proche de moi, lui, m'expliquait que bon, tout ça, ça n'était pas bien grave et que d'habitude, avant, les femmes, elles réglaient ce genre de problème plus discrètement dans le travail. Quand j'ai annoncé la séparation, il m'a étranglée au mois de décembre l'année dernière. Et c'est juste pour vous dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais qu'il y a des hommes dont les mentalités évoluent. Voilà.
Effectivement, Sophie, c'est assez terrible ce que vous nous racontez là, ce qui s'est passé effectivement dans votre couple. Sophie, j'aimerais qu'on entende la réaction de Marilyn Baldeck qui justement accueille des femmes victimes de violences dans leur milieu professionnel. Marilyn Baldeck, ce témoignage, comment vous y réagissez?
D'abord, je voudrais dire à Sophie qu'elle a tout notre soutien et qu'on la remercie d'avoir témoigné auprès de nous ce soir. Ce témoignage, il est Il est intéressant parce qu'effectivement, Sophie, elle pointe le fait que les femmes sont victimes de violences dans tous les milieux socio-professionnels. Et même si elles ont fait des grandes études, même si elles ont un capital culturel et social important, et que les agresseurs aussi appartiennent à tous ces milieux-là. Pour ne citer qu'un autre exemple, mardi s'ouvre à la cour d'assises de Nanterre un procès pour viol contre un avocat. Donc, y compris ceux qui sont censés faire respecter la loi, sont parmi les agresseurs que nous combattons tout au long de l'année dans les associations. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce témoignage, il est aussi intéressant parce que ça se passe dans le secteur hospitalier, qui est un milieu qui est particulièrement exposé aux violences sexuelles contre les femmes qui travaillent en fait dans le secteur de la santé. Et effectivement, les attaques, les violences, elles peuvent venir aussi bien du chef de service, des collègues de travail, des confrères, que des patients, bien entendu. Et c'est l'occasion de rappeler que dans la fonction publique, les fonctionnaires ont droit à ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, c'est-à-dire que leur administration est tenue de prendre en charge leurs frais d'avocat, est tenue de mener des enquêtes, de prononcer des sanctions, et d'indemniser financièrement leurs préjudices.
Alors voilà pour la réaction concernant le milieu hospitalier, le milieu professionnel, Marilyn Baldeck. Et c'était la première partie de l'intervention de Sophie qui était particulièrement intéressante. Mais la partie concernant sa vie privée, Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes, ça c'est assez hallucinant. Et on voit que là, dans la vie privée, il y a du travail à faire.
Oui, énormément. D'ailleurs, en réalité, ça se passe surtout dans ce qu'on appelle la vie privée. Ça se passe aussi surtout, les premiers agresseurs, malheureusement, font partie de l'entourage proche des victimes. Ça, c'est ce qu'on voit. Et c'est... Voilà, moi, ça m'a énormément ému, son témoignage, parce qu'on sentait que c'était encore très, très fort. Et c'est d'autant plus fort quand ça vient des personnes qui nous entourent, qui sont censées être les personnes dans lesquelles on doit avoir le plus confiance.
C'est-à-dire que quand on a déjà victime de quelque chose au travail qui est difficile, si en plus on ne trouve pas le réconfort chez soi et le soutien. Daniel Mérian, vous êtes avec nous, vous, depuis 18h, et vous êtes notre grand témoin ce soir. Il se trouve que vous avez été avocate spécialisée en droit de la famille, et notamment en droit du divorce. Alors j'imagine que vous souhaitez réagir, vous aussi, à ce que vient de nous dire Sophie.
Ah ben, je pourrais vous parler, après ce témoignage très émouvant et malheureusement... J'ose pas dire classique, enfin, dans la société dans laquelle nous sommes. Moi, une des premières agressions sexuelles que j'ai subies, c'était de la part d'un de mes confrères, un très vieux monsieur, là aussi, il a 70 ans, l'agresseur, très distingué, qui, nous étions adversaires au prud'homme à une époque où on plaidait jusqu'à minuit au prud'homme. Il me dit à un moment, écoutez, ma chère amie, on en a au moins pour encore 3 heures d'attente. Moi, j'ai mes entrées à l'Assemblée nationale. Si vous voulez, on va aller écouter la séance. Je trouve ça bien, j'y vais. Eh ben, en voiture, la main sur la cuisse. Alors, c'est pas un viol, diraient certains. Mais bon, c'est dire que c'est dans tous les milieux. Et en ce qui concerne l'inceste, hélas, c'est toujours motus et bouche cousue, hein? Parce que effectivement, c'est surtout dans les familles. Et quand on a lancé un numéro vert pour les petites filles victimes de leur père, qui est-ce qui a téléphoné? Celles qui savent parler. Donc les filles d'avocats et les filles de médecins. C'est pas les filles d'agriculteurs, mais c'était pareil dans les campagnes.
Alors, le témoignage de Sophie est édifiant un an après MeToo. Anne-Cécile Maillefer, la Fondation des Femmes, en partenariat avec le magazine Femmes Actuelles, a réalisé une enquête pour voir si les choses avaient changé concrètement, si les choses avaient évolué depuis un an. Vous avez intitulé cette enquête « La parole au pied du mur ». Pour quelle raison ?
Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans cette enquête, c'est que MeToo a bien été un déclencheur pour un nombre très important de femmes, en partie, évidemment, de femmes qui ont été victimes de violences, un déclencheur de... Elles ont, pour la première fois pour certaines, nous expliquent qu'elles se sont senties autorisées à parler, surtout auprès de leur entourage d'abord, aussi un peu sur les réseaux sociaux, auprès des associations. Mais lorsqu'il s'agit de parler, de pouvoir aller jusqu'à porter plainte, ce qui nous a les résultats les plus édifiants, c'était que plus d'une femme sur deux qui avait poussé la porte d'un commissariat, avait trouvé que, son accueil avait été insatisfaisant. Il y avait eu un problème dans l'accueil qui avait été fait dans le commissariat. Donc, alors, ce que disait Sophie, c'est vrai, c'est-à-dire que donc pour une femme sur deux, ça se passe bien, mais pour une femme sur deux, ça se passe pas bien. Et ça, c'est vrai que nous, on s'est dit, c'est quand même l'année de MeToo, c'est quand même l'année, on l'a bien vu, depuis fin 2017, plus 40% de plaintes. En 2018, ça continue, plus 22, 23%. Donc, et qu'il n'y ait pas eu un effort particulier, un effort important, alors même qu'on savait, parce que les chiffres arrivaient tous les mois, qu'il y avait un nombre important de plaintes, qu'on n'ait pas fait un effort suffisant pour se poser la question de comment ça se passe quand une victime arrive au commissariat, comment ça se passe quand une victime, et pour ne parler que des viols, une victime de viol, elle peut arriver dans un commissariat, attendre entre quelqu'un qui porte plainte pour son sac à main, quelqu'un d'autre qui vient râler pour une contravention, on l'appelle, on dit madame, le viol c'est au quatrième étage, elle arrive au quatrième étage, il y a trois fonctionnaires de police dans la pièce, elle doit dire des choses qui peuvent être très compliquées pour elle à dire, des choses sur son intégrité physique, son intimité.
Au niveau de l'écoute, ça n'a pas suffisamment évolué.
Non, ça n'a pas. Les chiffres le disent. Ça n'a pas suffisamment évolué. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais partout. C'est pas ce que je dis. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement d'ampleur. Il s'est passé quelque chose de très important dans la société et auprès des femmes victimes. Et la réponse n'a pas été à la hauteur. Et donc la parole se retrouve aujourd'hui au pied du mur des institutions, de la police et de la justice. Et ça, c'est, voilà, pour nous, c'est essentiel d'agir pour faire en sorte que ça se passe mieux.
Et ce que souligne votre enquête, c'est le rôle des associations. Marilyn Baldeck, vous qui vous occupez de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, vous avez constaté, vous, dans la pratique, un afflux de plaintes, de demandes de gens qui sont venus frapper à votre porte? Depuis
en
un
fait,
an.
C'est vrai qu'on a dit et redit. Et je vais encore le dire ce soir qu'il y a eu plusieurs paliers en fait ces dernières années qui ont exposé, qui ont rendu plus facilement identifiables les associations spécialisées à même de répondre aux besoins des victimes. Donc il y a eu l'affaire Strauss-Kahn en France, il y a eu l'affaire Baupin et puis l'affaire Weinstein où en tout cas pour ce qui est de la VFT, ça a été un raz-de-marée, un incessant en fait de demandes qui arrivaient par le téléphone, par l'accueil téléphonique, mais de mails auxquels on n'arrivait plus à répondre et de dossiers judiciaires qui patinaient, qui étaient embourbés, qui nous étaient envoyés par la poste et dans lesquels on nous demandait d'intervenir. Ce qui fait que après quelques mois à ce régime, à ce rythme, nous avons été contraintes donc d'interrompre l'accueil téléphonique et que l'accueil téléphonique, puisque les mails ont continué à arriver.
Faute de moyens, on est d'accord.
Faute de moyens, en fait, pour faire face. Là, à ce moment-là, si on avait voulu répondre à toutes ces femmes, il aurait fallu doubler les effectifs de l'équipe, au moins, à minima. Et donc, on n'a pas eu ces moyens-là. Ils ne nous ont pas été accordés par l'État alors qu'on les réclamait.
Malgré le discours des pouvoirs publics.
Malgré le discours des pouvoirs publics. Donc, il y a eu... donc on a un budget qui a été abondé par la Fondation des Femmes l'année 2018, dans des proportions très inédite pour des fonds privés, hein, mais encore une fois, une association comme la nôtre qui inscrit son action dans le temps long, dans le temps des procédures judiciaires au cours desquelles on va accompagner les femmes étape par étape, on a besoin de pouvoir se projeter financièrement à 2, 3, 4, 5 ans, parfois plus, pour pouvoir faire un travail de qualité. Et quand on a rouvert notre accueil téléphonique en juin, on était quand même plusieurs mois après MeToo. Et dès le jour où on a rouvert, ça a été de nouveau pris d'assaut. Et de nouveau, on est dans des difficultés matérielles
Et pourtant, Marlène Schiappa, elle dit qu'il n'y a pas eu de baisse de budget, que toutes les subventions aux associations sont maintenues.
Il n'y a pas eu de baisse de budget, mais il y a eu une explosion de demande. Donc, pour ce qui est de la VFT, on a eu des fonds qui sont arrivés de collectivités territoriales, et notamment de la région Île-de-France et de la ville de Paris. Mais ça posait une autre difficulté, c'est que nous sommes aujourd'hui obligés de répondre davantage à des femmes parisiennes et franciliennes, et que ça pose donc une rupture d'égalité territoriale qui est scandaleuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de dire davantage oui à une femme qui habite à Paris qu'à une femme qui habite à Toulouse. Donc c'est bien à l'État, en fait, de mettre la main au portefeuille pour que des associations d'envergure nationale puissent fonctionner normalement.
Alors, des associations comme l'association contre les violences faites aux femmes au travail, votre association. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Véronique qui est en ligne. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir.
D'où appelez-vous, Véronique ?
De Saint-Étienne.
On vous écoute.
Oui, c'est un témoignage qui est assez incroyable, alors qu'on parle de cette déferlante MeToo. Les élèves qui arrivent en école de commerce sont soumis, les élèves, enfin les étudiantes, femmes sont soumises à une notation lorsqu'elles doivent rencontrer leurs parrains en début d'année, en première année. C'est un bizutage, semble-t-il, hein, qui se produit encore aujourd'hui.
Vous faites référence à quelque chose de précis qui vient de se produire là ?
Oui, mais qui est habituel, semble-t-il, qui se reproduit chaque année, mais qui est encore arrivé cette année. Et dans la plupart, après en formation, dans beaucoup d'écoles de commerce.
Merci Véronique pour ce témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir. Anne-Cécile Maillefer ?
Sur le bizutage des alors que ce soit en école de commerce ou beaucoup aussi en médecine, c'est vrai qu'il y a des environnements scolaires qui favorisent ça plus que d'autres, même si ça peut être dans beaucoup les violences faites aux femmes font partie en fait de sortes de rites initiatiques dans un certain nombre de cursus universitaires par exemple de la culture carabin pour ce qui est des médecins et donc font partie à ces moments-là en début d'année, mais c'est évident que
mais une culture teintée de machisme, on est bien d'accord.
Absolument, une culture tout à fait machiste. Excusez-moi, je l'avais pas précisé. C'était absolument pas pour cautionner tout ça. C'est une culture qu'il faut absolument combattre puisque elle instaure des rapports entre les filles et les garçons qui sont complètement inégalitaires. Ce sont des violences en soi le jour où elles sont commises, et en plus ça instaure ça rabaisse directement les femmes et ont créé des rapports de domination entre femmes et hommes et de la violence directement en entrée de jeu dans les études.
Alors Aline Baldec.
Non mais voilà, je voulais simplement, dans le prolongement de ce que disait Anne-Cécile, dire que ça peut constituer des infractions pénales. Hein. Donc on parle de bizutage, on parle de rites de passage, mais en fait on parle d'infractions à la loi la plupart du temps.
Et à propos de loi, faut quand même dire une chose, c'est que la législation a évolué depuis l'année dernière. Il y a une loi qui a été votée, la loi du 3 août 2018 contre les violences sexuelles et sexistes. Marlène Baldec, c'est une avancée cette loi ?
Moi, je peux vous parler de la donc énième modification du délit de harcèlement sexuel qui a été introduite par cette loi, qui est une modification qui n'a pas du tout été concertée avec les personnes spécialisées dans ce domaine. On va voir à l'usage, mais a priori, notre analyse, c'est que cette énième modification est un plâtre sur une jambe de bois, parce que aujourd'hui, 97% des plaintes pour harcèlement sexuel sont classées sans suite, et c'est pas en changeant un mot ou deux de la définition que ça va changer, en fait. On a besoin maintenant qu'il y ait une vraie politique pénale de poursuite des infracteurs, enfin des harceleurs sexuels, avant même d'imaginer le combat changer une virgule de la loi, quoi.
Erwan nous appelle et souhaite parler justement d'un délit. Erwan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes là ?
Bonsoir. Oui, bien sûr, vous m'entendez bien ?
On vous entend, 5 sur 5, on vous reçoit.
Bonsoir, Madame Servagent, bonjour. Bonsoir au téléphone sonne et tous les intervenants. Voilà, j'essaie de reprendre des éléments qui ont déjà été dit jusqu'ici. Donc, combien de plaintes sont classées sans suite ou débouchent sur... un jugement d'un homme. Le budget alloué aux femmes, je crois que c'est 0,01% du budget de l'État.
Je comprends pas très bien ce que vous dites, Erwan. Vous évoquez un fait précis, c'est ça ?
Oui, notamment le jugement de la BAF qui a pour l'homme qui a pris 6 mois.
Ah, alors, attendez, je pense que je comprends ce dont vous parlez. Vous parlez de l'agresseur de Marie Laguerre qui a été condamné à 6 mois de prison ferme pour violence hier. Cet homme qui avait frappé une jeune fille après l'avoir harcelée, lui avoir lancé un cendrier à la figure. Peut-être un commentaire, Anne-Cécile Maillefer, sur cette condamnation qui a eu lieu hier et qui, on le précise quand même, n'a pas été prise en fonction de la nouvelle loi.
Non, mais d'ailleurs, c'est mieux, puisque la nouvelle loi, en ce qui concerne ce qu'on appelle le harcèlement de rue, enfin l'outrage sexiste, c'est juste une contravention. Hein. Là, ce qu'il a fait, c'est bien plus qu'un outrage sexiste.
C'est un délit.
C'est qu'il a agressé physiquement. Donc là, on est dans un niveau de gravité qui est encore supérieur. Et donc, effectivement, c'est une autre loi qui s'applique. Et bien heureusement, d'autant plus que je crois que c'était un individu qui avait été par ailleurs condamné à d'autres reprises, donc un individu dangereux, donc voilà.
Déjà condamné, récidiviste. Mmh. Nous avons Pierre également qui nous appelle au standard du téléphone sonne. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Pour quelle raison appelez-vous le standard ce soir ?
Parce que j'aimerais avoir un petit peu votre avis aussi sur ce sujet, c'est-à-dire que moi je considère que, je me pense comme être un très grand féministe, même en tant qu'homme.
Alors bienvenue.
Oui, merci. Et je pense que ce débat, il va un petit peu trop loin dans le sens où on dénigre un peu l'homme dans sa généralité.
Non.
C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas pareils.
On ne dénigre que les agresseurs, rassurez-vous.
Vous voyez, par exemple, là, moi, je suis en train de préparer un risotto pour ma femme qui va rentrer du travail. Je vois pas en quoi c'est non féministe, vous voyez. Il faut pas faire une généralité, c'est ce que je voulais dire, en fait. Voilà, c'est...
Dites-moi Pierre, puisque vous êtes là...
Il y a beaucoup de... Pardon du mot, mais de salopards. Mais on n'est pas tous comme ça.
Dites-moi Pierre, puisque vous êtes là et que vous êtes en train de faire la cuisine et que le risotto va peut-être attendre un tout petit peu, est-ce que vous avez noté, vous, un changement depuis un an dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans votre milieu professionnel peut-être, ou chez vos amis? Est-ce que vous avez senti une différence?
C'est justement ça qui m'a un petit peu choqué, c'est que j'ai regardé les informations, alors je vais dire pas à la chaîne, mais il y avait un sondage qui disait « certains hommes ont changé de comportement ». Mais moi, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. C'est à la base, quoi. Il n'y a pas de changement de comportement à changer. C'est juste qu'il faut être égaux, c'est tout.
Et respectueux.
Exactement.
Merci Pierre pour ce témoignage. Anne-Cécile Maillefer.
Alors on va rebondir sur ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc effectivement, les hommes qui agressent les femmes ou qui seraient tentés de le faire, il faut changer de comportement. Ça, c'est vraiment essentiel. Je pense que c'est bien de le rappeler. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui le font. Et puis ce qu'on peut faire aussi, nous c'est vrai qu'à la Fondation des Femmes, on invite les citoyens, les citoyennes à œuvrer en faveur de l'égalité aussi en faisant des dons qu'on peut ensuite reverser pour soutenir les associations, puisque ce qu'on voit aussi dans notre enquête, c'est que les associations sont vraiment le partenaire de confiance des femmes victimes de violences. Quand on demande aux femmes quelles sont, dans quelle proportion est-ce que elles font confiance aux associations, à la justice, à la police, elles vont dire les associations, c'est 96% font confiance ou très confiance dans les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences. Donc c'est vraiment le premier interlocuteur de confiance. Quand on leur demande pour la justice, ça tombe à 26% et l'indice de confiance en la police, 18%. Donc là, il faut évidemment que ces institutions s'interrogent et travaillent là-dessus. Mais je crois qu'il faut aussi vraiment soutenir le travail remarquable qui est fait par les associations. Donc évidemment, l'association contre la violence faite aux femmes au travail qui est là. Mais d'autres associations comme le collectif féministe contre le viol qui sont... Il faut vraiment savoir ce que c'est des femmes qui sont sous-payées, qui font ça toute la semaine, dans des conditions qui sont vraiment pas faciles, qui sont face à des femmes qui sont dans des conditions terribles. Et donc, les soutenir, c'est vraiment en soi déjà un vrai geste féministe.
Et c'est pas Danielle Mérian qui dira le contraire, elle qui est dans de multiples associations qui cherchent de l'argent.
Toutes mes adhérentes sont violées par leur vieux mari polygame.
On rappelle que c'est l'association SOS Africaine en danger.
Hein,
qui lutte contre l'excision.
Violées toutes les nuits par leur vieux polygame auquel elles sont vendues par leur père. Elles me disent « nos pères sont des monstres ». Effectivement, moi aussi je recherche de l'argent puisque je cherche des fonds pour acheter 10 school bus et les faire circuler 5 ans dans les 10 pays d'Afrique de l'Ouest dont sont originaires ces jeunes femmes. Et voilà. Donc, je fais appel aux donateurs. Et les personnes qui m'écoutent, si elles veulent me donner 50 euros, je prends.
Alors, de toute façon, c'est pour toutes les associations. On ne va pas faire de jalouse ce soir, y compris. Allez, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, Marilyn Baldeck, a aussi besoin de beaucoup de moyens. Beaucoup de gens sont venus frapper à votre porte cette année. Un petit mot aussi de celles qu'on n'entend pas forcément dans les médias, parce que le mouvement MeToo, on lui a reproché de donner la parole aux intellectuels, à certains milieux culturels. Mais vous, vous défendez des femmes. Je pense notamment aux femmes qui nettoyaient les trains à la gare du Nord, pour lesquelles vous avez gagné un combat cette année. Ça a été quelque chose de marquant.
Oui, pour lesquelles on attend l'audience d'appel, parce que bien entendu, donc la société Honnête, qui était notre adversaire, a fait appel et qui, donc, depuis, je compte même plus les années, à vrai dire, se battent pour obtenir une décision de justice définitive à leur qui leur rende justice avec nous à leur côté. Et donc, c'est vrai que dans les associations, on est plutôt saisi par des femmes qui sont issues des quartiers populaires, de milieux populaires en tout cas, qui ont plus le réflexe de franchir la porte d'une association que la porte d'un cabinet d'avocats, mais aussi pour des raisons financières d'ailleurs, et donc qui sont femmes de ménage, qui sont ouvrières, qui sont aussi fonctionnaires, mais du bas de l'échelle. Donc voilà, toutes ces femmes qui...
Pour qui le travail est essentiel, parce que...
Alors, il faut dire que le travail est essentiel pour toutes les femmes,
tout le monde,
en fait.
Mais...
Même les cadres, même celles qui gagnent très bien leur vie, en général, elles sont pas rentières, elles ont besoin de garder leur travail. Et donc, toutes les femmes qui travaillent subissent cette même contrainte économique.
Nous allons repartir au standard de France Inter, rejoindre Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Alors vous nous avez appelé parce que vous dites que vous avez battu votre femme et que vous avez réussi à sortir de ce comportement, c'est ça?
Oui, je voulais témoigner à ce sujet. Déjà, j'ai entendu des choses sur notre antenne tout à l'heure, salopard, etc. Effectivement, je peux comprendre. Moi, je m'en suis sorti parce que je me suis fait aider, parce que j'en ai parlé. Voilà, je me suis mis très jeune avec ma femme. À l'origine, quand j'étais petit, je frappais déjà ma sœur. Tout ça, je l'ai compris en parlant avec mon entourage, en discutant. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle m'a mis une gifle parce qu'on s'est disputé et j'ai fait ce que j'aurais jamais dû faire. Je lui ai mis un coup. Et puis, c'est devenu ma façon de lui répondre. Dès qu'on s'engueulait, je la frappais. C'est allé assez loin et elle est restée avec moi. Parfois même... elle provoquait la chose, hein. Je pense que c'est un souci, quoi. Quand on reste avec une personne violente, c'est un comportement, je pense, sur lequel elle a pris une certaine accoutumance. Un jour, on a eu un enfant, et quand il était très petit, je l'ai frappé devant mon fils, qui était encore bébé. Et là, j'ai eu un électrochoc, et j'ai décidé d'en parler autour de moi, d'en parler à sa famille. Enfin, ça a été d'ailleurs très bizarrement accueilli. Certaines personnes ne croyaient pas. Personne ne la défendait vraiment au final et aujourd'hui je suis très heureux de dire que je m'en suis sorti, que ma femme me fait toujours confiance, qu'on est ensemble. Je sens que c'est un comportement qui est encore en moi, je sais que je pourrais le faire, je pourrais m'énerver même auprès de mon enfant, mais je sais que maintenant j'ai trouvé les clés pour me calmer, pour gérer mes émotions, pour gérer ma colère. Et voilà, je voulais apporter ce témoignage parce que je pense que c'est important que les hommes aussi qui ont réussi à s'en sortir témoignent. Et je pense aussi qu'il faut traiter le mal à la racine. Et pour moi, le mal, c'est pas de soigner les femmes une fois qu'elles ont été battues. Oui, il faut le faire, mais il faut vraiment accompagner les hommes. Les aider, c'est un mot peut-être qui va vous paraître déplacé, mais oui, moi j'avais vraiment besoin d'aide. Et si quelqu'un m'avait tendu la main et était venu me comprendre et me parler avec moi, ce chemin, je l'ai fait tout seul. Et je pense qu'on n'est pas tous capables de le faire.
Merci Nicolas pour ce témoignage pas banal, hein, sur l'antenne de France Inter. Prendre la mal à la racine, je retiens ce que vous venez de dire. Et en tout cas, une question d'éducation aussi. Je ne sais pas qui souhaite réagir, Anne-Cécile Maillefer.
Ah oui, c'est absolument une question d'éducation, même plus largement de culture. C'est-à-dire comment est-ce que toute la société envoie des messages aux garçons et aux filles depuis petit. Ça c'est évident. Il faut faire les deux choses. Il faut faire le court terme et puis le long terme. Et c'est vrai qu'on peut pas être uniquement dans le fait de faire en sorte de protéger les femmes. Il faut absolument, il faut le faire, ça c'est sûr. Mais il faut aussi regarder les choses en face. S'il y a des femmes à protéger, c'est qu'il y a des agresseurs qui les agressent. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins d'agresseurs qui agressent les femmes? Ça, c'est quand même le début peut-être de la fin du problème, pour éviter que de génération en génération, on reproduise inlassablement, que les hommes qui agressent reproduisent inlassablement les mêmes mots.
Le gouvernement annonce une grande campagne de communication. Je ne sais pas très bien ce qu'il y aura dedans. Marilyn Baldeck, on a une petite idée, parce que peut-être que ce genre de comportement aussi doit être pris en compte dès le plus jeune âge. Pour être dénoncé dans une telle campagne, non? Ce serait une façon de sensibiliser? C'est important?
Bien sûr que mener des campagnes, c'est important, communiquer, c'est important. Alors moi, je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir cette campagne-là. Mais encore une fois, je suis désolée, mais vous allez penser que c'est une obsession, mais c'est une réalité objective. Ça suffit pas. Enfin, c'est faire en sorte que ça change et qu'on passe, qu'on change de paradigme, qu'on aille vers un autre monde. Ça passe aussi par des actions concrètes qui doivent accompagner les campagnes de communication. Et en tout cas, nous de notre fenêtre, ces actions concrètes, on a du mal à les voir venir de manière suffisante et suffisamment opérationnelle.
Donner plus de moyens, notamment. Ouais. Moi, j'ai quand même une petite question sur le fait que le nombre de condamnations soit en baisse. Comment on peut expliquer ça, Anne-Cécile Maillefer?
Oui, ça, on a vu l'enquête faite par Le Monde qui indique qu'il y a 40% de condamnations en moins depuis 10 ans pour des faits de viol. C'est absolument délirant, mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, il y a aussi derrière des orientations, on va dire, politiques. C'est ce que disait tout à l'heure Marilyn Baldeck sur les orientations de politique pénale. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que à partir de maintenant, il va être très important de faire en sorte de réussir à condamner plus de, dans des proportions quand même plus importantes, des violeurs ou pas? Et je crois qu'on n'en est pas encore là, malheureusement. On continue à être dans cette, depuis une dizaine d'années, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que dit c'est l'analyse du Monde, que c'est très compliqué de réussir à faire en sorte que les preuves qu'on apporte soient considérées réellement comme des preuves. Et c'est vrai que dans les cas de viol, si on dit « Ah bah non, la parole de l'expert, finalement, c'est pas vraiment une preuve. Ah bah non, les expertises médicales, c'est pas vraiment une preuve. Ah bah non, les textos, c'est pas vraiment une preuve. Ah bah non, l'expertise... » Si en fait, on refuse toutes les preuves qui sont des faisceaux d'indices ultra importants quand il s'agit d'un viol, parce que soi-disant ce serait pas suffisant, eh ben il faut pas s'étonner après que les auteurs les agresseurs, les violeurs ne soient pas condamnés.
Marilyn Baldeck.
Oui, ça permet aussi de mettre en lumière le fait que, ben, en réalité, la quasi-totalité des viols commis et jugés en France, ils sont pas jugés comme des viols, en fait. Ils sont pas jugés à la cour d'assises. Ils sont jugés par des tribunaux correctionnels, dégradés, déqualifiés, disqualifiés, on pourrait même dire, en agression sexuelle. Ça s'appelle la correctionnalisation. Et donc, ce processus de minoration judiciaire des violences dont les femmes sont victimes, il est quand même extrêmement problématique, parce qu'on ne met pas les mots sur les violences dont les femmes sont victimes. En tout cas, un certain nombre d'entre elles le vivent extrêmement mal, et bien souvent, elles n'ont pas vraiment le choix.
On va prendre un dernier appel au standard du téléphone sonne, parce que l'heure tourne. Isabelle nous appelle à son tour. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir, c'est sympa de prendre mon appel parce que depuis un an, je suis choquée par quelque chose qui n'apparaît pas dans tous les reportages, télé, radio, journaux. C'est le fait que nous les femmes, les humanistes, féministes que nous sommes, il y a beaucoup d'hommes avec nous et je ne suis pas pour toutes ces conséquences de société. Pour autant, j'estime que nous sommes responsables de la transformation culturelle parce que nous sommes des mamans, nous sommes des frangines. Et on pourrait contribuer à une autre éducation des petites filles, des garçons. J'ai élevé 4 enfants. Il est de notre ressort d'éduquer les filles et les garçons de la même manière, de telle sorte que les filles ne se comportent pas en petites princesses et les garçons respectent les filles.
Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage qui rejoint celui de Rémi sur franceinter.fr qui nous demande lui aussi comment éduquer, accompagner pour ne pas subir, pour libérer la parole et pour que les choses changent. On va peut-être vous demander à vous, Daniel Mérian, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous, avec le recul que vous avez sur l'évolution de la société...
Bien, comme vient de le dire Marilyn, on correctionnalise le crime de viol, ce qui est un parfait scandale, et j'ai peur que ça ne s'arrange pas, parce que ça coûte beaucoup trop cher, beaucoup plus cher, d'organiser une session d'assises qu'une audience correctionnelle.
Mais sinon, comment on est pour, au niveau des enfants? Bah, il faut des enfants, des petits-enfants.
Ah bah, tout
le travail commence là, on est d'accord.
Tout démarra de l'éducation. J'ai plaidé contre un jeune violeur qui avait été élevé par une brute, et sa brute de père ne cessait de lui répéter qu'un mec, ça trousse les femmes. Et ce pauvre gosse, finalement, qu'est-ce qu'il a fait sur un terrain vague? Il a, heureusement, il ne l'a pas violé, parce que quelqu'un est intervenu, mais il était vierge, il ne trouvait pas aucun autre moyen que de violer une femme pour complaire à son père. Donc c'est vraiment à l'école, je crois quand même beaucoup à l'école, c'est à l'école qu'on doit apprendre effectivement aux petits garçons à respecter les filles.
Marilyn Baldeck, la priorité des priorités pour vous aujourd'hui, on ne reparle pas des moyens, parce que ça on a compris que c'était quand même le nerf de la guerre et que c'était essentiel, mais sinon c'est quoi? C'est de sensibiliser le grand public encore une fois ou pas?
Ben, c'est deux, effectivement. C'est
les choses évoluent.
Alors, nous, ce qui est sûr, c'est qu'à l'association, qui est aussi organisme de formation depuis 2-3 ans, et puis singulièrement depuis MeToo, on a des demandes de toutes parts d'intervention dans des entreprises, des administrations, auprès d'organisations syndicales, qui souhaitent se former sur ce qu'est le harcèlement sexuel, ce que sont ces violences, comment on les combat dans le milieu du travail, et quels sont les outils de prévention qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est quand même un indicateur intéressant qu'il y a quelque chose qui frémit, en tout cas, à défaut de nous révolutionner. Mais voilà, il faut passer par là, et puis trouver des moyens d'accompagner vraiment les victimes dans leur démarche.
Une question de Lauriane sur franceinter.fr. Comment on fait quand on a envie de s'engager pour aider ces femmes? J'aimerais m'engager. Elle rejoint vos associations, Anne-Cécile Maïfer, par exemple?
Oui, absolument. Elle peut rejoindre les associations. Elle peut aussi participer à la Nuit des Relais qui aura lieu le 4 décembre, qui est une course solidaire contre les violences faites aux femmes. Et on espère lever pendant cette soirée, donc ouverte à toutes et à tous, sur nuitdesrelais.org. On espère lever 200 000 euros. Donc ça, c'est une chose très concrète qu'on peut faire. Et puis, de manière générale, oui, il y a des tas d'associations près de chez vous dans lesquelles vous pouvez aussi vous engager.
Je voudrais vous lire un message qui nous est arrivé aussi sur le site de France Inter. C'est Dominique qui souhaite apporter son soutien à notre première auditrice, à Sophie, qui a témoigné et qui veut lui dire que vu ce qui s'est passé, effectivement, c'est très compliqué, mais qui tient à lui dire je vous embrasse, Sophie. Je crois que c'est important de le dire parce que ce témoignage.
On l'embrasse toutes.
Daniel Mérian.
On l'embrasse toutes, Sophie.
On l'embrasse toutes.
Une femme formidable.
On l'embrasse toutes, on la soutient. Globalement, de toute façon, on peut dire que les choses ont changé. Je voulais aussi vous signaler ce que disait quand même le sociologue et philosophe Marcel Gauchet en guise de conclusion. Lui, il estime que la domination masculine est morte. Vous avez 10 secondes pour réagir. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Bon, bah, c'est une excellente nouvelle. Mais c'est bien. On n'a plus qu'à fermer les associations.
Voilà, ce sera.
On va pouvoir partir en vacances. Merci,
grâce à lui.
Ce sera le mot de la fin. Merci Daniel Mérian, merci Marilyn Baldeck, merci Anne-Cécile Maïfer, merci à tous et à toutes de nous avoir appelés. C'est donc la fin de ce téléphone sonne. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Thomas Lehetec qui guettait vos mails ce soir, à la technique, Julien Dumont, Loïc Frapsos, Tristan Gratalon. Merci aussi aux standardistes de l'émission.